Nous allons ce soir commencer une série à propos de la prospérité. Et on va découvrir que la prospérité, ce n'est pas seulement les finances, mais beaucoup plus que ça. On va commencer par un texte qui est dans 3 Jean, verset 2. Et je vais vous enseigner plusieurs semaines à propos de la prospérité en général et on va aussi se focaliser sur les finances. Mais nous allons découvrir qu'il ne faut pas se centrer ou se concentrer sur un objectif matériel. Je vais beaucoup orienter mes enseignements sur nos façons de penser, nos façons de voir les choses. Parce que nous allons découvrir que c'est une grande clé. Et souvent, parce que cette clé n'est pas comprise, elle amène les gens à chercher des choses. Par exemple, il y a des gens, quand on leur parle du baptême du Saint-Esprit, ils cherchent le parler en langue. Et ils se trompent, nous ne devons pas chercher le parler en langue quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Nous devons simplement chercher sa présence et se laisser remplir. Il y a des gens qui cherchent des positions dans la vie. Ils ne devraient pas chercher des positions, ils devraient chercher à glorifier Dieu. Et si tu cherches à glorifier Dieu et que tu as une mentalité d'excellence, obligatoirement, la conséquence, ce sera une position. Donc nous allons plus travailler sur ce volet à propos de nos mentalités, nos façons de voir les choses. Parce que le reste en découle. La Bible nous dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et souvent, on a associé le mot prospérité à argent seulement. Et c'est faux.
Ce n'est
pas argent seulement.
C'est
beaucoup plus que ça. C'est une mentalité. Que veut dire le mot prospérité? Ça veut dire littéralement dans ce texte-là un bon voyage. Safari Muzuri, c'est ça? Faire un bon voyage dans la vie. Faire un bon voyage dans la vie, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est vraiment le sens propre de ce mot-là. Le sens figuré, ça serait effectivement prospérer, avoir du succès, réussir. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un bon voyage, un excellent voyage dans cette vie. On voyait déjà que quand on parle de prospérer, bien sûr, l'argent peut aider à faire un bon voyage dans cette vie, mais pas seulement. Il y a beaucoup plus. Si tu veux une vie d'excellence, ça va commencer par une mentalité, une compréhension du royaume. Un des produits dérivés sera les finances, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées sur les finances. Et il y a vraiment deux écoles. L'école de la pauvreté, de l'humilité, de l'abstinence. Et on va en parler. Et il y a aussi l'école où je me sers de Dieu pour avoir des choses. Et on verra que ça, c'est une mauvaise école qui a donné une expression qui est extrêmement critiquée, que vous entendrez parfois à droite à gauche, qui s'appelle évangile de prospérité. Et alors, ça a créé beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à cela en disant, ces chrétiens ne cherchent que le matériel, ne parlent que d'argent. Et nous allons voir que ce sont deux extrêmes qui sont mauvaises. Mais qu'il y a une voie royale. Ni la pauvreté, ni la recherche des biens matériels en utilisant l'évangile n'est une voie royale. La vraie voie royale, on va la découvrir au travers d'une mentalité, la mentalité du royaume. Et nous allons creuser dans cette mentalité afin que de plus en plus nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous a créés et que chaque chose vous pouvez les positionner correctement dans votre vie. J'ai vraiment découvert une chose importante: la façon dont tu te positionnes par rapport à quelque chose t'amène dans une dimension ou dans une autre dans ta vie. Si tu prends vraiment une position telle que Dieu veut que tu la prennes par rapport à différentes choses de la vie spirituelle, ça t'amène dans une certaine dimension. Si tu prends une position plus du monde ou de la chair, cela va t'amener dans d'autres dimensions, les mauvaises dimensions. Mais de la position que tu prends va dépendre la dimension dans laquelle tu vas vivre. Et c'est pour ça qu'il va falloir que nous apprenions, que ce soit dans le domaine de la prospérité en général ou les finances en particulier, à avoir les mentalités qui viennent du ciel, afin de découvrir vraiment ce pourquoi Dieu nous a créés. Parce que, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé, il l'a planté au milieu du jardin, nous le savons tout cela. Et la Bible est claire, la Bible nous dit que Dieu a donné la domination. On va relire chapitre 1 de Genèse, versets 26 à 28. Et on va remettre des choses à leur place. Vous savez, le monde nous a tordus en mentalité. Et quand on a une mentalité tordue, et qu'on entre dans le royaume de Dieu, et qu'on ne change pas sa mentalité, alors nous allons être malades de différents comportements. Et nous avons besoin de guérir de différents comportements. Parce que tu peux toujours prier: Seigneur, je veux te glorifier dans ma vie. Si tu ne changes pas ta mentalité, que tu ne guéris pas de certains comportements, tu ne glorifieras pas Dieu. Parce que tu vas prier d'un côté, mais d'un autre côté, tu vas tomber dans des choses qui sont indignes de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre. Quand nous recevons Jésus comme sauveur personnel, Dieu nous fait entrer dans son royaume. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui nous assure le ciel. Mais comment est-ce que tu vas voyager dans cette vie? Hein, on revient à ce voyage. Comment est-ce que tu vas voyager dans cette vie? Parce que tu vas voyager dans cette vie jusqu'au jour où ton corps va mourir et ton esprit et ton âme vont partir au troisième ciel. Est-ce que tu veux faire un excellent voyage dans cette vie? Ou est-ce que tu veux faire, comme beaucoup de chrétiens, un voyage lamentable dans cette vie? La différence entre les deux est simple. Il y en a un qui a reçu Jésus, qui s'assoit dans une église et qui attend que les choses se passent, qui va prier, qui va essayer de faire ce qu'il peut pour plaire à Dieu et qui va avoir souvent un mauvais voyage. Il va rencontrer de l'opposition, il va rencontrer des mauvaises circonstances, mais il va traverser cette vie en faisant un mauvais voyage. Par contre, l'autre fait quoi? L'autre, il comprend que faire un bon voyage ou un mauvais voyage, bien sûr, va dépendre de sa prière, c'est sûr. Mais aussi, il comprend que ça va dépendre de sa mentalité et de ses comportements et de la guérison de sa mentalité et de ses comportements. Les gens sont malades du comportement. Nous avons des perceptions des choses qui sont fausses souvent. On est là, on regarde une une situation.
Et
on a toujours vécu ça, donc on se dit c'est normal.
Maintenant,
quand tu commences à plonger tes regards dans la loi de Dieu, la loi parfaite,
c'est là où
tu commences à découvrir
qu'une
situation est anormale.
Et
qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cela? Tu vas souffrir pendant des années.
Ou
au contraire, tu vas commencer à prendre les secrets du royaume. Changer ta mentalité. Commencer à changer ton comportement. Et voir la puissance du royaume de Dieu
agir.
Ça, c'est la prospérité.
Ça,
c'est la prospérité.
C'est
là où les choses changent dans ta vie.
Où
tu es transformé. Genèse 1:26 nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Versets 26
à 28, s'il vous plaît.
Ensuite, Dieu va préparer un jardin pour l'homme. Et dans ce jardin, il prépare tout parfait. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le crée à son image, à sa ressemblance. Et Dieu ne vit pas ni dans la misère intellectuelle, ni dans la misère en général, ni dans la maladie, ni dans quoi que ce soit d'autre. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il vive le même style de vie que lui. Une vie glorieuse, une vie de domination et de bénédiction. Rien ne devait entraver la vie qui coulait du ciel sur Adam et
Ève.
Rien, sauf l'interdiction de toucher à l'arbre.
Et
c'est ce qu'ils ont fait. Et nous savons qu'à ce moment-là, alors que dans la pensée même de Dieu, quand il a créé l'homme,
vous
savez, c'est difficile pour nous de s'imaginer de telles choses. On a du mal parce qu'aujourd'hui on voit le monde comme ça. On est né dans ce monde qui est l'héritage de la chute d'Adam et
Ève.
On entend toutes les mauvaises nouvelles régulièrement, que la vie est dure, que la vie est terrible, etc. On est constamment plongé dans une atmosphère qui est le monde autour de nous. Donc on a du mal à s'imaginer comment Dieu voulait l'homme à l'origine. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer. Parce que d'abord, on n'y était pas. Et ensuite, nous n'avons vu que les conséquences de la chute. Le péché, la maladie, la pauvreté, la mort, tous les malheurs sur les hommes, etc.
Donc,
il nous est difficile de comprendre comment Dieu avait mis l'homme dans sa condition originelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer. Parce qu'il va falloir qu'on comprenne
qu'il
y a un certain nombre de choses que Dieu veut qu'on revive au travers justement de notre salut et du royaume de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu a des secrets pour nous, pour une vie, une qualité de vie qui est bien au-delà de ce que les inconvertis peuvent vivre. Dieu, dans sa parole, dans Malachie, dit la chose suivante. On verra de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il doit y avoir une différence. cette différence doit être notoire. Cette différence doit être évidente au milieu des inconvertis. Il doit y avoir quelque chose sur nous qui doit vraiment nous propulser dans les hauteurs, dans tous les domaines, et qui doit nous amener à faire une différence évidente par rapport aux inconvertis. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la gloire de Dieu ne passe pas dans nos vies, ne se manifeste pas dans nos vies. Amen.
Amen.
Très important ce que je vous dis. Il y a une chose que Dieu a fait de l'homme. C'est la productivité. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Regardons dans Psaume 1. Nous sommes créés en tant qu'êtres humains en vue de produire. La productivité est quelque chose d'essentiel chez l'homme. Tu as été créé pour produire. Souvent, on parle de stérilité. Vous savez, quand une femme ne peut pas avoir d'enfant. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont stériles dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui sont stériles intellectuellement. Il y a des gens qui sont stériles financièrement. Il y a toutes sortes de gens qui sont stériles dans beaucoup de domaines de la vie. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont stériles dans beaucoup de domaines. Il y a des chrétiens qui sont stériles pour amener les autres à Christ. Ils n'enfantent pas en Christ. Il y en a qui sont stériles dans la prière. Dans plein de domaines, la stérilité n'est pas de Dieu. La productivité est de Dieu. Et nous allons le voir dans l'Écriture. Il est très important que vous compreniez que la prospérité, c'est en fait quoi? C'est la productivité de votre vie. Par exemple, il y a des gens qui sont stériles dans leurs relations. À chaque fois qu'ils ont des relations avec des gens, ça ne marche pas. Leur cercle relationnel ne s'agrandit pas de jour en jour, d'année en année. Ils restent toujours avec des gens médiocres. Et il
n'y
a rien qui se passe dans leur vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a une volonté extraordinaire. Il veut que nous puissions nous épanouir. Prospérer à tous égards, comme nous l'avons lu. Parce que tu es supposé être quelqu'un qui doit produire. Dans tous les domaines. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume 1. Le psaume 1 nous dit la chose suivante. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, et qui la médite, qui médite sa loi jour et nuit, donc qui médite la parole, c'est ça que ça veut dire. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit ou prospère, si vous voulez.
Guhahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho kandi byagezwe byiwe n'ibyashira ku mutima ku murango no mu ijoro azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama igihe cyacu ibibabi byacu ntivyuma icyo azokora cyose kizomubera ko.
Donc la Bible nous compare à quoi? Nous qui servons Dieu, nous qui avons la parole de Dieu. Elle nous compare à des arbres. Il y a quoi? Il y a arbre. Planté où ça? Près d'un courant d'eau. Et il y a fruit. Fruit, c'est la production. Et la Bible nous dit clairement que quelqu'un qui est basé dans la parole, qui est près d'un courant d'eau, c'est-à-dire qui connaît la vie de l'esprit, obligatoirement est comme un arbre. Cet arbre va pousser. Et obligatoirement,
au
bout d'un certain temps, en sa saison, il va y avoir des fruits. Il va y avoir une production. Dieu ne t'a pas planté dans son royaume pour que tu sois stérile. Dieu t'a planté dans son royaume pour que tu sois productif et que tu apprennes à produire davantage. Tu vas mesurer ta vie spirituelle. Non pas aux 50 heures de prière que tu fais toutes les semaines, mais aux fruits. Et là, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Vous savez, souvent les gens mesurent la spiritualité d'une personne au nombre d'heures de prière. La prière a sa place. Mais
ce
n'est pas parce que tu pries 50 heures par semaine que forcément tu vas porter beaucoup de fruits. Faisons bien attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Il y a des gens qui vous diront, moi je prie de 6 heures du matin à 8
heures.
C'est très bien, tu as peut-être une discipline de prière. Mais je te dirai autre chose. Montre-moi quels fruits tu portes. Montre-moi si tu portes de plus en plus de fruits. Et je te dirai si vraiment tu pries. Ou si tu penses prier. Ou si tu vis dans un monde spirituel que tu t'es fabriqué. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On mesure la spiritualité d'une personne à sa productivité. Ça, c'est une façon de penser différente. On a souvent mesuré la spiritualité des personnes parce qu'elles étaient à l'église tout le temps. Et qu'elles disaient qu'elles priaient des dizaines d'heures par semaine. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit comme critère. La Bible nous dit clairement, c'est aux fruits. On reconnaît l'arbre. Il y a beaucoup d'analogies que Dieu nous donne dans sa parole à propos de l'arbre et de la productivité. Regarde tes fruits. Sois honnête avec toi-même. Pèse tes fruits tous les ans. Qu'est-ce que tu produis? Est-ce que tu produis plus? Est-ce que tu produis moins? Est-ce que tu produis rien du tout? Regarde dans ta relation avec Dieu. Regarde dans ta relation avec les autres. Regarde dans tes finances. Regarde dans ta santé. Regarde partout autour de toi. Et à ce moment-là, on verra si tu es un arbre qui prospère. C'est la question que tu dois te poser. C'est la réelle question. Quel type d'expérience tu fais avec Dieu? Est-ce que ces expériences sont réelles? Quels fruits portent-elles? Reconnaît l'arbre à son fruit. Nous sommes des arbres plantés dans le royaume de Dieu. Donc, obligatoirement, si tu es planté, si vraiment c'est la parole que tu médites, si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui coule dans ta vie, la Bible est claire. Tu vas grandir et au bout d'un moment, tu vas porter du fruit. Et là, on va en venir à cette deuxième pensée à propos de l'arbre. Regardons le psaume 92.
Psaume 92.
Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose d'important à propos de cette croissance. C'est sûr que si vous plantez un arbre quelque part, en général, il ne va pas porter du fruit au bout d'une année. Mais il va porter du fruit au bout d'un certain temps. Et normalement, qu'est-ce qui se passe pour un bon arbre? Tu le plantes quelque part, il pousse, et tu vas faire une première récolte. Est-ce que si vous avez un arbre, la première récolte sera la récolte la plus abondante? Non. Non, c'est une première récolte. Par contre, si vous plantez, vous savez que c'est un bon arbre, qu'est-ce qu'il est supposé faire? Un bon arbre est supposé donner des fruits d'abord sur une base régulière. Si vous avez un arbre que vous avez planté, vous avez une fois une récolte. Et puis pendant 3 ans, vous n'avez rien. Après, vous avez encore un peu de récolte. Et puis pendant 5 ans, vous n'avez plus de récolte. Et puis après, vous avez encore une petite récolte. Qu'est-ce que vous allez penser de cet arbre ?
Ce
n'est pas un bon arbre qui est en train de s'épanouir. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a un certain nombre de difficultés à pousser dans la terre où vous l'avez mis. Mais la conclusion, ça sera quoi ? C'est par rapport à sa récolte. Sa production, pardon. Donc normalement, si je plante un arbre quelque part, qu'est-ce que j'attends de lui ? Je lui laisse le temps de pousser. Puis il va porter des fruits une première fois. Mais j'attends que régulièrement, tous les ans, il porte du fruit, ou plusieurs fois par an, ça dépend. J'attends aussi une chose. C'est que la deuxième fois où il va porter du fruit, ça sera plus. Et la troisième fois, encore plus. Jusqu'à temps qu'il arrive à une maturité. Et que régulièrement, tous les ans, je puisse me dire, bon, ce manguier-là, en général, je peux attendre chaque année à peu près entre 250 et 300 kilos de
mangue.
Ça, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous avez planté un bon arbre. Sauf que peut-être les premières années, il va porter quelques petites mangues. Mais il va pousser, il va se renforcer. Et il va commencer à produire abondamment et régulièrement. Donc, je plante un arbre, j'attends une production. Je sais que cette production va venir au bout d'un certain temps.
Que
la première fois qu'il va produire, ce sera moins que les autres fois normalement. Je sais qu'il va produire régulièrement. Plus il va maturer, plus il va produire.
Voilà.
Et au bout d'un moment, il va produire en abondance tout ce qu'il peut porter comme fruit. Rappelez-vous d'une chose. Là, nous sommes en train de faire une comparaison entre un arbre et la Bible nous dit, celui qui a la parole de Dieu, etc., etc., il est comme. Ça veut dire que la Bible nous compare. Si Dieu t'a planté dans son royaume, il veut que tu t'épanouisses, il veut que tu portes des fruits jusqu'à temps d'en porter en abondance. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire qu'il va falloir que tu commences à changer, à te poser la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas fertile. Pourquoi est-ce que constamment je me retrouve devant des choses où je ne porte pas de fruits ? C'est une question que tous les chrétiens devraient se poser. Il y a beaucoup de chrétiens qui traînent dans les églises, qui vont dimanche après dimanche dans les églises, et qui ne se posent même pas cette question. C'est triste. Passer toute sa vie en quasiment ne portant aucun fruit, ou très peu, et mourir, aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, moi, tu n'as pas fait de moi un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, donc je ne pouvais rien faire de ma vie. Quelle tristesse. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui raisonnent comme ça. On va faire maintenant une autre remarque à propos de l'arbre. Regardez dans Psaume 92, à partir du verset 13. Les justes fleurissent comme le palmier. Vous vous rappelez ce que Mohamed Sanogo nous a dit à propos du palmier ? Que le palmier, c'est le seul arbre qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. C'est une caractéristique du palmier. Alors que tous les autres arbres pousse à partir de l'extérieur, avec l'écorce, etc. Il est dit, ils croissent, voyez encore, fleurissent, croissent, comme le cèdre du Liban. Ensuite, Dieu va nous dire quelque chose d'autre. Planter, voyez, planter encore, planter dans la maison de l'Éternel. Donc la Bible nous dit bien qu'on est planté. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu.
Et
regardez verset 15, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alors, si vous ne trouvez pas que c'est la définition de l'épanouissement, dites-moi ce que c'est. Ici, il y a quand même des mots qui sont très marquants. Il est parlé de fleurir. Une herbe qui est sèche ou un arbre qui est à moitié mort, il ne fleurit pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas, il a pas tout ce qu'il faut. Il n'a pas cette vie en lui pour fleurir. Il est parlé de croissance. Il est parlé d'être fécond dans la vieillesse. Il est parlé d'être plein de sève, c'est-à-dire de vie et d'être verdoyant. Il y a une chose que vous devez comprendre. Plus vous avancez dans votre vie, plus vous devez produire et les meilleures années de votre vie devraient être les quelques dernières dizaines d'années. C'est la vision que vous devez avoir dans votre vie. Ne pensez pas que la vieillesse, comme on peut le voir chez les inconvertis, ce sera votre lot. En tout cas, si vous avez cette vision, c'est que vous n'avez pas compris ce que la parole de Dieu dit. Il y a un temps pour découvrir le Seigneur. Il y a un temps pour patauger, c'est-à-dire qu'on se débrouille mal, on ne comprend rien. Mais il y a un temps pour découvrir les réalités du royaume. Il y a un temps pour maturer dans ces réalités du royaume. Et commencer vraiment à porter des fruits de plus en plus en abondance. Et la Bible nous dit clairement que dans la vieillesse, on continue à porter du fruit. On continue à s'épanouir. On continue à être fécond. Ça c'est extraordinaire. Parce que quand vous lisez des récits sur des inconvertis qui parlent sur les inconvertis, ils vous diront qu'il y a les maladies de la vieillesse. Que quand vous êtes vieux, vous ne pouvez plus rien faire. Etc. Mais je ne crois pas dans ces choses-là. Je crois que Dieu a pour nous une vie surnaturelle où on porte bien plus de fruits encore quand on est avancé en âge. Et que le jour où on doit partir à la maison, on partira pas pendant 20 ans ou 30 ans avant avec une vie misérable. La vie de Dieu, si elle coule abondamment sur toi, te donnera tes vieux jours comme étant les meilleurs. Vous savez, quand quelqu'un est rempli du conseil de Dieu, c'est quelqu'un qui est écouté. Quand c'est un gamin de 20 ans qui commence à dire Dieu ceci, Dieu cela, Jésus ceci, Jésus cela, il est écouté par des gamins de 15 ans et de 10 ans. Mais pas par les plus anciens en général. Pourquoi ? Parce que les plus anciens lui diront qu'est-ce que tu connais de la vie.
Et c'est vrai
quelque part. Donc je crois que nous devons converger vers des choses les plus excellentes que Dieu a pour nous. Vers cet épanouissement. Dieu nous le promet. Dans sa parole. Et un de ces épanouissements, justement, ça va être dans le domaine financier. Nous avons parlé de ces choses. Revenons à Genèse. Genèse. Dieu crée l'homme. Il crée Adam, il crée
Ève.
Avant cela, il met dans la terre sa propriété. Toutes les richesses que l'homme peut exploiter. Dieu avait fait d'Adam et Ève des princes et princesses. Appelés à régner, étant pourvus en toutes choses, mais étant immaculés, c'est-à-dire absolument sans trace de péché. Et nous le savons bien, La terre est la propriété de Dieu. Et il avait mis Adam et Ève pour gérer sa propriété. Adam et Ève appartenaient à Dieu. Ils les avaient créés à son image. Et c'était à eux de régner sur sa propriété. Et nous connaissons tous cette histoire malheureuse. Lamentable, où Adam et Ève se sont fait rouler par le diable. On ne va pas relire ça parce que nous connaissons très bien ces passages-là. Et nous allons découvrir un passage particulier qui nous fait mieux comprendre ce qui s'est tristement qui a été tristement réalisé en ce temps-là. C'est dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, il va se passer quelque chose de particulier. Il va y avoir une rencontre. Une confrontation. Entre le propriétaire de la terre. Et le gestionnaire actuel. Depuis la chute d'Adam et Ève. Il va y avoir une confrontation ici. Rappelez-vous, Dieu est le propriétaire de la terre. Il avait mis des gérants, Adam et Ève, sur sa propriété. Tout se passait bien. Mais à un moment, Adam et Ève ont accepté d'obéir au pire ennemi de Dieu. Quand ils ont fait ça, eux-mêmes ont changé de royaume. Ils sont morts spirituellement et ils ont changé de royaume. Ils n'appartenaient plus au royaume du propriétaire de la terre, mais d'un seul coup, ils ont appartenu au royaume de l'ennemi. Et ce que Dieu leur avait donné comme autorité sur la terre, Adam et Ève l'ont transféré à l'ennemi de Dieu. Et certaines personnes sont un peu choquées parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient « Dieu, tu règnes sur la terre ». Eh bien, Dieu ne règne pas sur la terre aujourd'hui. Avoir le désordre qu'il y a sur cette terre, ce n'est pas Dieu qui règne sur sa propriété.
Aujourd'hui.
Et rappelez-vous, je vous ai fait des enseignements sur la consommation du salut. Et je vous ai montré que la terre est l'objet de la plus grande bataille de l'univers. Nous savons la fin du livre, la fin de l'histoire. Nous savons une chose, c'est que Dieu récupérera la gestion de sa propriété avec ses enfants, c'est-à-dire avec ceux qui auront accepté de se repentir de leurs péchés et qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Et c'est avec vous et moi que nous régnerons sur la terre quand Dieu l'aura refaite dans sa surface. Mais en attendant, quelle est la condition de la terre et quelle doit être notre position? Rappelez-vous que c'est de notre position que dépend la dimension dans laquelle nous vivons. Et Au chapitre 4 de Luc, au verset 1, il est dit « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte, ou tu l'adoreras lui seul. » Versets 5 à 8 en Kirundisi.
Waramudugana ku murongo wa gatanu amwereka ubwami bwose bwo mwinsi mu kanya gato umugwaniza aramubwira ati ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabwo kuko jewe nabuhawe kandi mbuha uwo ngomba wese nuko ni wamfukamira ukansenga ubwo bwose buraba ubwawe Yesu aramwishura ati byanditswe ngo usenge uhoraho imana yawe abari usaba yonyene.
Ici en fait nous allons découvrir un certain nombre de choses.
Ah turabona ibintu bimwe.
Donc nous avons la confrontation entre le propriétaire et le gestionnaire. Ce sont deux ennemis. Et là, le diable essaye de tenter le propriétaire. Il va tenter Dieu le Fils qui est dans la chair. La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Et là, ici, le diable voulait faire chuter Jésus. Peut-être que cela lui aurait donné un certificat de propriété sur la terre. Mais là, le diable lui dit, il montra en un instant tous les royaumes du monde.
Alors,
ça s'est passé dans l'imagination de Jésus. Ça ne s'est pas passé physiquement. Le diable n'avait aucun pouvoir de lever Jésus dans le ciel.
Et
il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir. En fait, ce pouvoir ici, c'est toute cette autorité légale. C'est un mot grec qui dit autorité légale. Et la gloire de ces royaumes. Regardez bien ce qu'il dit après. Elle m'a été donnée. Qui a donné cela au diable? Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils avaient un contrat de gestion avec Dieu sur la terre. Ce contrat a été légué à l'ennemi à partir du moment où ils ont changé de royaume. Et le diable dit, je la donne à qui je veux. Et remarquez que juste après, Jésus ne va pas contester cela. Jésus ne dit pas au diable, menteur. Parce qu'il ne mentait pas là. Il essayait de tromper. Le diable cherche à mentir et à tromper. Et là, ici, le diable disait une vérité. Mais ils essayaient de dire une vérité pour tromper. Ils tentaient Jésus en lui disant, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Bien sûr, vous pouvez toujours compter sur la promesse d'un grand menteur et d'un grand trompeur.
Mais
légalement, le diable aurait le droit de donner des pouvoirs. C'est d'ailleurs ce que la sorcellerie fait quand des gens vendent leur âme au diable. Le diable leur donne des pouvoirs surnaturels à ces gens-là. Pour les amener en enfer, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont des pouvoirs surnaturels diaboliques parce qu'ils ont fait des pactes avec le diable.
Qu'ils
se sont liés au diable
avec
des choses spirituelles très fortes.
Mais là, ici,
c'est très clair. Jésus ne va pas contester ça. Il va dire simplement qu'il ne va pas accepter. Non, il faut adorer le Seigneur ton Dieu seulement. Pourquoi ? Parce que c'est une vérité. Le diable est le gestionnaire aujourd'hui des biens de notre Père. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre. Parce que quand on commence à parler, entre autres, de finances ou de pouvoir dominer certaines choses ou d'avoir certaines autorités. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est quoi ? C'est convoitise et élévation. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont tout laissé au Pagnac. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que les païens profitent aujourd'hui en grande majorité des biens de notre Père. Alors que c'est vous et moi qui devrions être dans des positions d'autorité et qui devrions profiter pleinement des biens de notre Père, des biens du propriétaire. C'est comme si, par exemple, vous possédiez une maison et que quelqu'un louait cette maison.
Donc
vous êtes le propriétaire de la maison. Vous avez quelqu'un qui loue votre maison, qui récupère l'argent du loyer, et vous êtes là, ne touchant rien alors que vous êtes le propriétaire. Est-ce que vous ne seriez pas fâché? Bien sûr que vous seriez fâché. Qu'est-ce que vous feriez? Tout pour reprendre votre droit.
Et
c'est normal. C'est exactement ce que nous devons faire. Et on en parlera plus la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée.